Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table, comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût, Alimentation Générale. Pierre Hiverna est son directeur, il est avec nous aujourd'hui, comme chaque dimanche. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Vous nous proposez la cerise sur le gâteau, une cerise, si j'ai bien compris, qui nous fait remettre les pieds sur terre.
C'est ça, c'est une initiative qui s'appelle « C'est qui le patron ?»
À tout à l'heure, 12h25. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
La Madeleine II, soit le souvenir gustatif d'une personnalité aujourd'hui.
La chef d'orchestre Zaya Ziwani.
Tout à l'heure à 12h15, et évidemment vous restez avec nous pour écouter notre plat du jour. On pense souvent, et on a raison d'ailleurs, que la cuisine est d'abord plaisir des yeux avant d'être plaisir de bouche. Mais dans cette ronde des sens, il ne faut surtout pas oublier les oreilles. Alors ouvrez les grandes. Ce midi, c'est un drôle de spectacle que nous vous invitons, un spectacle qui convie un cuisinier, quatre musiciens et 100 convives. Sur le plateau, une table de découpe, des plaques chauffantes, un évier, des tables et des chaises disposées en étoiles sur lesquelles les spectateurs s'installent, tandis qu'un cuisinier s'affaire à réaliser une bourride de petites sèches. Il découpe, il émince, il rissole, il déglace. Et comme dirait Dorimène dans Le Bourgeois Gentilhomme de Molière...
Alors, qu'on donne du vin à Monsieur Jourdain et à ces messieurs et à ces dames qui nous font la grâce de nous chanter un air à boire.
C'est merveilleusement assaisonné la bonne chair que d'y mêler la musique et je me vois ici admirablement régalée.
Bonjour à vous, Maglone Vidal.
Bonjour.
Et bienvenue dans ces bonnes choses. Vous êtes musicienne, saxophoniste, performeuse, conceptrice de spectacles vivants. Le dernier en date tourne en ce moment. Il s'intitule « La tentation des pieuvres ». Vous allez nous expliquer le titre tout de suite. C'est un spectacle qui a déjà un peu tourné cette année, qui continuera en 2019 et que vous allez jouer aujourd'hui même à Paris, à la Philharmonie. Juste un mot sur ce titre, « La tentation des pieuvres ».
Alors en fait, dans ce spectacle, on déguste une bourride de petites sèches.
C'est quoi une bourride ?
Alors une bourride, c'est un plat du Gros du Roi qui est... est-ce que je dois révéler toute la recette ?
Non, c'est pas de là. C'est quelques ingrédients, quoi.
Donc voilà, donc c'est à base de poireaux, d'oignons, de pommes de terre et de petites sèches. Et en gastronomie, on confond en fait les sèches, les pieuvres et les calamars.
Tout à fait.
Et l'idée de la pieuvre me plaisait beaucoup par son histoire et par ce qu'elle représente de tentaculaire et qui ressemble à l'appétit finalement, c'est-à-dire ce désir dont on ne peut se défaire. Donc ça me plaisait, l'image était magnifique, ça créait la scénographie finalement, puisque la scénographie c'est une étoile à 8 branches, donc c'est une pieuvre dont la tête est constituée par la table de découpe du cuisinier et c'est aussi inclus dans le dispositif sonore puisque il y a 8 enceintes qui bordent totalement la scénographie et donc qui baignent le public dans le son. Donc voilà, j'ai mis très longtemps à trouver ce titre.
Ah mais manifestement, c'est mûrement réfléchi. Maglone Vidal, vous êtes une musicienne. Quel est le rapport, votre rapport d'ailleurs, à la cuisine ?
Bon, il est constitutif pour chacun de nous, mais je suis née dans un restaurant en fait. Parce que mes grands-parents avaient un restaurant qui était un restaurant très populaire et qui ne fermait jamais. C'est très populaire, mais c'était de grande qualité parce qu'ils ont eu pendant pas mal d'années, ils ont eu une étoile Michelin. Et j'ai traîné énormément dans cet endroit, quoi. Je m'y suis ennuyée, voilà. Mais on avait accès à tout. On était petits, on avait accès à tout, aux chambres froides et tout ça. On mangeait ce qu'on voulait. C'était délicieux. Ils ont jamais ouvert une boîte. C'était un menu différent tous les jours. Ils faisaient tout eux-mêmes, les terrines et tout ça. Enfin, c'était des menus à rallonge, comme il y a longtemps. Et donc, j'ai énormément regardé. J'étais fascinée par les corps en action, d'abord. Dans les cuisines et à la fois dans la salle.
C'est ça qui vous a donné envie de faire de la musique ? Plus que de faire de la cuisine d'ailleurs ?
La musique, ça c'est du côté paternel. Mon père m'a mis au piano, j'avais 4 ans. Quoi, donc
mais rien à voir avec les ustensiles de cuisine qui peuvent être des instruments.
Rien à voir. Mais par contre, j'ai très vite été fascinée par la notion du temps. C'est-à-dire qu'un cuisinier, il ne met pas de minuterie. Moi, ma grand-mère disait toujours, mais tu le vois. Quand elle disait combien de temps, etc. C'était... dans son corps, quoi. Elle avait pas besoin de préciser ça. Un musicien, c'est pareil. Sur scène, il met pas un métronome. Et donc, comment un cuisinier incarne le temps et comment un musicien incarne le temps, ça m'intéresse beaucoup, cette articulation-là.
Et comment, justement, par les ustensiles de cuisine, on a un rythme, on a un tempo et on a de la musique. Mais écoutez, par exemple, ce que ça peut donner.
Et...
Yuzi Horikawa, Cook from South. Alors, est-ce que Maglone Vidal, dans votre spectacle La Tentation des pieuvres, cuisine et musique font bon ménage au point que vous avez réussi à penser tout un spectacle autour de la musique et de la cuisine?
Moi, je trouve que c'est fondamentalement musical. Fondamentalement. C'était très jouissif de créer cette pièce parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Au départ, j'avais fait des hypothèses, mais quand je me suis trouvée au Centre National de Création Musicale de Reims, en train de tester les sons de la cuisine et quel micro pouvait bien fonctionner, en fait, j'ai découvert des tas de choses qu'on entend, qu'on sous-entend, en fait, auxquelles on ne prête pas attention et qui font partie vraiment de notre environnement quotidien. Donc ça, c'était extrêmement plaisant. Et puis, les opérations du cuisinier, qui sont vraiment la base de la dramaturgie de la pièce. Tout est écrit en fonction de ça.
Oui, parce que là, c'est pas les ustensiles de cuisine qui font de la musique, quoique. Mais il y a quand même des vrais musiciens sur scène.
Il y a aussi des vrais musiciens.
Qui font de la vraie musique.
L'idée, moi, ce qui m'intéresse dans la musique, c'est l'hybridation. Finalement, je pars toujours du son, parce que c'est de là que je viens. Et je m'intéresse à comment on peut finalement avoir une approche synesthésique de la musique. Donc, en voyant, en sentant, en goûtant aussi. Voilà, c'est vraiment cet endroit qui m'intéresse de l'hybridation. Donc, ce que je voulais surtout pas, c'est juxtaposer les choses. Donc, c'est pour ça que tout est écrit vraiment en fonction de cette recette, de ce cuisinier.
De la bourrine des petits sèches.
Et de ce plat.
Du cuisinier Claudius Tortorici.
J'irai même plus loin, c'est le primum movens, la cuisine. C'est-à-dire que c'est sur la cuisine. Et le spectacle commence par ça. Le spectacle, il commence par le son de la cuisine au repos.
C'est vous qui arrivez au départ.
Oui, et je simplement je place des micros à un endroit et ça révèle un son qui nous entoure complètement, dont on ne se rend absolument pas compte, encore une fois. Ça, c'est déjà de la musique, c'est déjà du rythme et c'est déjà un cluster, c'est-à-dire un accord. C'est déjà tout ça, avec un tout petit instrument de cuisine que tout le monde a à sa maison. Je vous dis pas.
Ah, vous dites pas. Il faut juste pour pouvoir imaginer, pour les spectateurs qui n'ont pas du tout idée de ce dont vous parlez.
C'est le son des plaques à induction. Et c'est hyper rythmique et hyper, on peut dire mélodique, mais ça produit des notes en tout cas.
On va écouter un extrait pour bien comprendre de quoi il s'agit, Maglone Vidal. Pas un teaser, hein, c'est-à-dire un mélange de sons.
Tout à fait.
Il faut bien le dire. Et ça n'a pas la même qualité sonore que ce qu'on peut voir évidemment sur scène. Alors, au début, vous faites chauffer de l'eau sur des plaques à induction. Les plaques à induction font du bruit. Puis arrive le cuisinier qui se met à faire la bourrée de petites sèches. Parlez-nous de la disposition. Vous avez dit que c'était en étoile avec au centre le piano de cuisine, un plan de travail. Et puis les spectateurs sont déjà à table, en fait, et regardent faire la cuisine pendant qu'ils écoutent les instruments de musique qui sont disposés de part et d'autre de ces tentacules de la pieuvre. Est-ce que vous diriez aussi que, finalement, le point commun entre la cuisine et la musique telle que vous l'avez pensée, c'est le partage d'un moment sensible, aussi bien en musique qu'en cuisine? C'est un moment ensemble. Au final, ils mangent les spectateurs, donc c'est un moment de partage.
Complètement. C'est une manifestation d'hospitalité aussi. À la fois au spectacle vivant et aux gens, quoi. Ben, l'idée, c'était de travailler en deux actes, en fait. Il y a le premier acte qui dure à peu près une heure et qui est la confection, donc, musico-culinaire, visuelle, olfactive du plat qui nous offre la dramaturgie, finalement. Et puis, au bout d'une heure, lorsque le plat est terminé, ben, les musiciens se transforment en serveurs. Ils vont venir apporter le plat aux convives et puis le vin, bien sûr.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens restent manger, ils discutent parfois plus longtemps que ne dure le spectacle.
Oui, ben en fait, moi je tiens beaucoup à dire que le fait que les gens mangent ça fait vraiment partie du spectacle. D'ailleurs, le spectacle noir n'arrive finalement que lorsque le dernier convive va terminer son assiette. Parce que je tenais absolument à ça. C'est aussi un phénomène spectaculaire que de manger sur un plateau tous ensemble avec des gens qu'on connaît pas, qui partagent parce qu'on n'est pas servi à l'assiette. Hein, on partage vraiment chaque place et chacun qui, voilà, chaque table qui s'organise. Et ça m'émeuvait et me motivait beaucoup de mettre en scène ça, cet acte là, de manger tous la même chose au même moment, ce qui est rarissime, absolument rarissime. Maintenant, il y a plein de particularismes entre celui qui mange pas ceci, celle qui mange pas cela, etc. Donc là, il y avait un moment de communion comme ça, qui me paraissait important de porter à la scène.
Et vous savez que ça se fait de plus en plus, ça se fait beaucoup. Ça s'était fait il y a quelques années, en 2011, avec le spectacle Risotto, où l'on voyait s'affairer sur scène deux amis qui cuisinaient le risotto et qui partageaient leur plat final avec les spectateurs. Et en ce moment même, ça se fait au théâtre de Sartrouville, dans une mise en scène de Sylvain Maurice. Ça s'intitule « Ma cuisine ». Et « Ma cuisine », c'est à la fois une série de formes courtes avec des films réalisés en direct, des chansons, des préparation culinaire. Je voudrais vous proposer d'écouter un extrait de Sylvain Maurice qui parle de ma cuisine. Écoutez-le.
Ce projet est né au départ d'une rencontre entre un marionnettiste qui est également cuisinier, qui s'appelle Philippe Rodriguez Jorda, et moi-même. Et donc en travaillant ensemble, on s'est aperçu que la cuisine était à la fois un sujet théâtral sur le plan visuel, mais aussi théâtral sur le plan des situations. Puisqu'en fait, on a tous un lien personnel, intime à la cuisine, et qu'il s'agissait de l'explorer. Il y a un fil rouge, ce fil rouge, c'est la mémoire, ou plus exactement, comment la cuisine ravive les souvenirs. Chacun se répartit différentes choses à faire. Philippe fait la cuisine, Nadine Berland raconte des histoires qui peuvent être des cartes postales, qui peuvent être des recettes de cuisine, qui peuvent être des correspondances, qui peuvent être des souvenirs. Il y a des moments où ce sont des propos rapportés. On rapporte les propos de la grand-mère, on rapporte les propos de tel ou tel personnage, mais qui ne sont que des évocations. Et à d'autres moments, les narrateurs eux-mêmes prennent la parole et donnent leur point de vue. Donc en fait, il y a des registres de parole et des prises de parole assez différentes. La musique, elle permet de prolonger le souvenir. Elle est une sorte de, oui, c'est ça, de continuité émotionnelle avec le souvenir olfactif. C'est un prolongement du goût. Et donc, ça nous renvoie à quelque chose qui est vraiment sensible.
Sylvain Maurice, qui a conçu et qui met en scène Ma cuisine au théâtre de Sartrouville, c'est jusqu'au 20 décembre. Alors, est-ce que Maglone Vidal, dans votre spectacle La tentation des pieuvres, vous concevez la musique de la même façon, c'est-à-dire qu'elle permet de prolonger un souvenir comme un prolongement du goût, dit-il?
Oui, à la fois, pour être honnête, j'ai vu ça quand la scénographe, qui est Emmanuel de Beuchère, qui a fait un travail extraordinaire, hein, m'a demandé sur quoi on va travailler, comment on va travailler. Est-ce que tu veux le resto de ta grand-mère? Est-ce que tu veux la fête au village? Tu veux quoi? Et je lui dis non, je veux un truc futuriste. Noir, la pieuvre futuriste, quoi.
Donc c'est retour vers le futur.
Ouais, c'est non, pas, j'ai envie de dire que c'est notre, ouais, j'ai envie de dire que c'est notre futur, oui. J'ai envie de penser ça, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai envie de proposer ça, de donner ça à déguster, en tout cas, que c'est notre futur et que c'est une sorte de manifestation contemporaine.
Comme vous parliez du temps et du rapport au temps au début de cette émission, Maglone Vidal. Il se trouve que les bonnes choses, c'est à la fois le présent de maintenant, c'est à la fois le futur avec votre spectacle, mais c'est aussi le passé avec la Madeleine de Natacha Triou.
Le public réagit d'une manière...
Puéril et confuse.
On plonge dans le passé, mais pas si lointain, c'est ça, avec... On reste surtout en musique, Natacha.
On reste en musique avec la chef d'orchestre Zaya Ziwani, dans le milieu, hein, c'est assez rare, une femme chef d'orchestre. Elle dirige l'orchestre symphonique Divertimento dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et depuis 20 ans, elle travaille à emmener la musique classique un peu partout, dans les MJC de banlieue ou dans les prisons. Alors avant d'arriver à Pantin, Zaya Ziwani a grandi en Algérie et pour sa Madeleine, elle nous raconte avec tendresse une recette kabyle.
moi, je suis d'origine algérienne, alors forcément, la gastronomie, et puis mon père est cuisinier, donc voilà, ça a toujours eu une place assez importante dans la famille, mais c'est vrai qu'en fait, c'est une galette de pain, qu'on fait beaucoup en Algérie d'ailleurs, et dans ma famille. Alors en Kabylie, on appelle ça haroum. Et moi, quand j'étais petite, on appelait ça le pain d'Algérie parce que c'était celui qu'on mange particulièrement là-bas. C'est un pain qui est à la fois un petit peu croustillant et un petit peu dur en même temps. Donc, et quand il est bien fait, justement, c'est un savant mélange entre les deux. Parfois, ça se fait avec de l'huile d'olive, donc on sent aussi un petit peu l'odeur de l'huile d'olive. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce qu'après, ça peut avoir un parfum qui est un petit peu trop fort. On le mange parfois avec des petites salades, par exemple, de poivrons ou avec des œufs. Enfin, ça se mange avec tout, d'ailleurs. Mais bon, particulièrement avec ce type de mets. En fait, moi, surtout, je me souviens, parce que quand ma mère le faisait quand on était petit, souvent, elle était obligée d'un petit peu nous gronder gentiment parce qu'en fait, on adorait quand, et surtout en plus, il sortait tout chaud. Et donc, ma mère, elle en faisait plusieurs et souvent, il avait du mal à arriver entier jusqu'à la table. Du coup, moi, petite, en passant douce derrière ma mère pour essayer d'en prendre un petit morceau. Et s'il y avait un tableau de moi, ouais, ça serait celui-là en fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je le mange, ça me rappelle toujours les beaux moments que j'ai pu passer en Algérie en famille avec ma grand-mère à la fois paternelle, malheureusement qui est décédée il y a un petit moment déjà, et maternelle. Et quand justement j'étais à l'hôpital et que j'ai accouché de ma petite, la première chose que ma mère elle m'a dit, t'as besoin de quelque chose? Et je lui dis, ouais, je veux manger ce pain, parce que c'était pour moi une façon de me raccrocher aussi un petit peu à ma vie de petite fille, et puis surtout ce sentiment de bien-être un peu sécurisant, parce que je le mangeais toujours dans un contexte familial très bienveillant, très aimant. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, et puis encore maintenant, ma fille qui est assez petite, pour le goûter, on préfère presque manger un petit bout de ce pain-là plutôt que d'acheter une viennoiserie ou un gâteau. Donc, qui pour moi est toujours un plaisir, parce que ça me rappelle des beaux souvenirs d'enfance.
Et cette Madeleine se termine en musique, Maglone Vidal. C'est pas tout à fait ce genre de musique que nous entendons quand nous voyons La Tentation des Pieuvres, votre spectacle, qui est un drôle de spectacle, je le rappelle, pour un cuisinier, quatre musiciens et 100 convives. Précisément, à quel moment intervient la musique et de quelle façon? Est-ce que c'est pour accompagner le cuisinier? Est-ce que c'est pour provoquer le cuisinier? Comment l'avez-vous pensé, la musique?
La musique, elle est constitutive de la cuisine, en fait. Donc, je fais pas de différence entre le son et la musique. Pour moi, les sons, en tout cas, captés comme ça, parce qu'il y a un gros travail de captation sonore, on a bricolé des micros, on a travaillé beaucoup la captation sonore et la diffusion sonore. Donc, finalement, tout fait son, tout fait sens et tout fait musique. Donc, il n'y a pas de frontière pour moi, pas du tout. Donc, le premier son qu'on a entendu tout à l'heure, donc qui est un des sons des plaques induction, parce qu'elles produisent beaucoup de sons différents.
On dirait pas comme ça, mais voilà.
Et en fait, ça, c'est déjà de la musique. Et on va, en fait, au bout d'un moment, il y a un musicien électronique et sublime qui est Christian Zanesi. Il va intervenir. Il traite ces sons-là, et au bout d'un moment, on ne sait plus si c'est vraiment le son des ustensiles de cuisine, le son de la musique électronique, le son du violoncelle, le son du percussionniste. On travaille beaucoup là-dessus, sur cette profondeur-là qui crée musique tout le temps. J'espère qu'il y a tout le temps de la musique dans ce spectacle.
On baigne dans la musique, si je puis dire. On baigne littéralement dans la musique, puisque là ce qu'on entend c'est le son de votre saxophone, Maglone Vidal, qui plonge dans l'évier pour cette étrange composition aquatique. On entend aussi un fouet électrique qui devient instrument de musique. Les musiciens jouent à partir de l'oignon qui épluche le chef, de la soupière qui fume, de l'eau qui coule, de la plaque qui chauffe, comme vous le disiez. Ce qui est impassible, c'est le chef qui continue lui de cuisiner et qui lui ne suit pas du tout la musique. C'est quand même les musiciens qui suivent le travail du chef. Alors, est-ce que la musique, encore une fois, vient illustrer ce qu'il fait? Et si je vous pose cette question, c'est qu'en fait, le chef fait tout le temps la même recette. C'est la bourrite de Petite Sèche. Est-ce que la musique, elle est improvisée ou est-ce que la partition est écrite d'avance dans la mesure où vous savez, quand vous faites ce spectacle, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va reproduire comme geste pour faire sa bourrite de Petite Sèche? Comment ça se passe, ça?
Bien sûr, c'est très écrit, en fait. C'était très écrit et moi, ce que je revendique, c'est vraiment une écriture hybride. Donc, c'est très écrit. C'est vrai que c'est lui le chef cuisinier, mais c'est le chef d'orchestre, puisqu'effectivement, tout est basé sur ses actions et ses déplacements. Parce que, comme la cuisine est éclatée, il y a aussi des temps de déplacement qui sont intéressants. Et puis, les musiciens, bien sûr, ils vont pas se priver de prendre l'espace aussi. Donc, effectivement, la musique, elle est scénarisée, elle est architecturée. Alors après, à l'intérieur de cette écriture-là, chacun a son espace de liberté. Mais on sait très très bien quelle musique on va produire à quel endroit. Puisque, effectivement, tout dépend de l'écriture du cuisinier, finalement.
Qu'est-ce que ça produit, alors, chez les trois personnes qui sont sur la scène? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça produit chez vous, musicienne, de jouer avec cette étrange musique culinaire, d'une certaine façon? Qu'est-ce que ça produit chez le cuisinier, qui se fait taper dessus parfois même, parce que c'est comme s'il était des percussions à lui tout seul? Et qu'est-ce que ça produit chez le public? Qu'est-ce que vous avez vu comme type de réaction? Dans l'ordre, alors, vous, le cuisinier et
alors, bon,
et le
moi, je trouve ça extrêmement
c'est ludique.
Jouissif. C'est très jouissif. Et puis, ouais, en plus, on est très près des gens. Ça, c'est exceptionnel aussi. On a les gens très, très, très près de nous. Donc, il y a cette grande proximité. C'est très jouissif parce que c'est très enfantin. On a tous pensé à ça à des moments, évidemment. On cuisine avec nos oreilles aussi. Je crois que, voilà, ça concerne tout un chacun. Donc, il y a ce jeu, vraiment. Donc, il est très, très jouissif. D'après ce que me dit le cuisinier, je pense qu'il
ça lui plaît
aussi beaucoup. Et donc, on voit des spectateurs assez fascinés, en fait, et par les actions du cuisinier et par ce que ça produit, par le dispositif scénique aussi, s'il se passe des choses partout. Ça crée un imaginaire aussi qui est propre à chacun. Et puis il y a les odeurs. Mais ce que je cherchais à faire, c'est qu'il y a cette idée de base, la musique, la cuisine produit de la musique, mais je voulais aussi que parfois on ne sache plus du tout où on est, qu'on soit pris dans une vague comme ça, musicale, olfactive, les fumées, la lumière, tatac. Ça me plaisait ça, que paf, ça crée vraiment de l'imaginaire, de l'ébullition.
Et là, ça fonctionne. S'appelle La Tentation des pieuvres, Maglone Vidal. Alors ça se joue aujourd'hui à 16h et à 21h à la Philharmonie de Paris, mais je suis pas du tout sûre qu'il y ait encore des places, hein, cela dit. Ça se jouera ensuite le 18 janvier à la scène nationale de Mâcon, les 31 janvier et 1er février au festival Son d'hiver à Grand-Quevilly. Et puis je vous invite donc aussi à aller voir Ma cuisine de Sylvain Maurice. C'est jusqu'au 20 décembre au théâtre de Sartrouville et des Yvelines. Alors restez avec nous, puisque la cerise sur le gâteau qui va suivre a, elle, les pieds bien sur terre. C'est qui le patron? C'est ça le sujet de votre chronique du jour, Pierre Hiverna?
C'est ça. À un moment où les débats sur le pouvoir d'achat sont plus que d'actualité et que les prix toujours plus bas sont encore la marque de fabrique publicitaire de nombreux groupes de la grande distribution, je voudrais vous parler, Caroline, d'une initiative qui a désormais fait ses preuves de son efficacité et qui porte un nom, qui offre effectivement peu de réponses possibles. C'est qui le patron ? L'histoire commence voici 2 ans quand Nicolas Chaban, chef de ce futur mouvement patronal, constate comme tout un chacun qu'en achetant une brique de lait dans son supermarché, il la paye en dessous de son prix de revient. Et oui, c'est possible, ça s'appelle un produit d'appel. Il se dit que compte tenu de la haute valeur symbolique du lait au regard de la crise que vivent les agriculteurs, ses concitoyens consommateurs seraient peut-être prêts à payer un peu plus pour assurer une rémunération correcte aux producteurs. Le voilà donc parti à envoyer un questionnaire à des consommateurs pour qu'ils établissent eux-mêmes le cahier des charges du lait de leurs rêves, celui évidemment avec beaucoup de morceaux d'équitable et de développement durable dedans. La question finale fatidique étant, quel prix êtes-vous prêt à payer? Et la réponse arrivera avec le petit clin d'œil marketing qui va bien, 99 centimes, sur lesquels les producteurs devront toucher entre 39 et 41 centimes. Reste à ces consommateurs devenus les boss à s'occuper de créer la marque « C'est qui le patron ?» Avec quand même deux contraintes plus que majeures pour contenir les coûts. Pas de budget de communication et pas d'embauche de commerciaux non plus. Autant dire qu'à l'époque, la concurrence s'est beaucoup gossée. Dans ses rêves les plus fous, Nicolas Chaban espérait vendre 5 millions de litres la première année. Il s'approche gentiment aujourd'hui, à l'heure où on parle, des 67 millions deux ans après. La marque est désormais présente dans 14% des foyers français et la concurrence rigole beaucoup moins. Mais
est-ce que ce qui est possible avec le lait est possible avec d'autres produits ?
Eh bien oui, Caroline. C'est d'ailleurs ce qu'a rapidement pensé Nicolas Chaban en étendant son concept à des produits plus simples, mais aussi simples que le lait, les œufs, le beurre, la crème fraîche, le jambon, la confiture ou le fromage blanc. Mais là où le projet a réellement pris une autre dimension, c'est quand les patrons se sont attaqués à une improbable pizza surgelée aux trois fromages. D'abord, ils ont affiché deux points indépassables dans le cahier des charges. Le produit sera 100% français et comprendra au moins 60% de garniture. Et puis, il a fallu travailler les trois fromages. Ce seront un comté, donc une appellation d'origine protégée, avec une raclette et un emmental en label rouge. La tomate de leur rêve viendra de Tarascon. Et puis le plus difficile, le four à bois pour la cuisson, où l'on puisse tracer l'origine des fagots. Ce sera une PME de Manosque qui séduira les patrons. Et ça ne s'arrête plus. Prochain projet, la farine, qui a déjà fait l'objet de 8000 votes de consommateurs et que l'on trouvera en rayon le 14 janvier prochain. Désormais, Nicolas Chaban a passé la vitesse supérieure en créant une coopérative sobrement appelée la Société du Consommateur. Forte de plus de 5000 consommateurs sociétaires, elle vient définitivement asseoir l'un des mantras que Nicolas Chaban se plaît à répéter. L'intelligence collective est une forme d'intelligence supérieure.
Ah, je ne sais pas si Maglone Vidal approuvera, mais en tous les cas...
Ah oui,
ah oui, ben voilà, c'est dit.
J'approuve le fait que... Le collectif est intelligent.
Eh ben merci beaucoup, Maglone Vidal. Merci d'être revenu dans les bonnes choses. Et merci à vous, Pierre Hiverna. C'est la fin de cette émission. Les bonnes choses se réécoutent en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgo Wichichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Amin El Mansari, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, ça sera le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman.